There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Des duels légendaires entre des monstres sacrés du jeu, il y en a eu à l'Open d'Australie. Les passionnés auront certainement lu le top 50 des plus grands matchs de ce tournoi sur Eurosport.fr. Si ce n'est pas le cas, foncez. Parmi eux, il y a évidemment des finales incroyables avec Djokovic, le recordman du nombre de titres à Melbourne avec 8 succès, mais aussi avec Federer, Nadal, Agassi ou Wilander. Des finales mythiques, il y en a eu, oui, mais quelle est la plus grande, celle qui vous a fait le plus vibrer? Difficile de se prononcer, me direz-vous, mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien Yo, vous écoutez le podcast Qui c'est le plus fort, et nous allons nous interroger aujourd'hui sur la plus grande finale de l'histoire de l'Open d'Australie. Pour m'accompagner, notre consultant et ancien joueur Nicolas Escudé, ainsi que le journaliste Bertrand Milliard et Laurent Vergne. Salut messieurs.
Salut Adrien.
Bonjour Adrien.
Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors pour commencer, messieurs, quelle finale avez-vous choisi de défendre, Bertrand?
Je crois que c'est facile, quand même. Qui peut avoir choisi une autre finale que moi? J'ai l'impression que le débat va être sur un seul match, parce qu'on ne peut pas choisir autre chose que le Federer-Nadal 2017, évidemment.
Laurent?
N'en déplaise à Bertrand, on va quand même essayer d'y discuter un peu. Donc moi, j'ai choisi la finale de 2012, matchs préférés de Bertrand.
Très chaud. Très chaud et très long.
Et Rafael Nadal. Très très long, très très long.
Et très, moi, très mon acolyte et partenaire de cabine, m'a coupé l'herbe sous le pied. Mais c'est pas la première fois. Mais comme l'a dit Laurent, on va essayer de discuter. Et moi, pour tout ce qu'elle représente, je vais prendre la finale 2014
entre Stanislas Wawrinka et Nadal. Commençons avec toi, Nicolas. Pourquoi avoir choisi cette finale Wawrinka-Nadal, Nadal qui était blessé.
Nadal qui était blessé. Alors, cette finale, parce qu'on est en pleine, ce que j'appellerais, ère Big 3 avec Nadal, Federer, Djokovic, qui trust à peu près tout ce qui peut se présenter ou pas loin. Un Murray, pas forcément très loin. Mais en Australie, ça fait depuis la dernière qui était 2005. C'est l'un de ces trois joueurs-là qui l'a remporté là-bas. Un Stan Wawrinka qui est en train d'émerger, qui accroche les gros et pas qu'un peu sur les différents grands chelems qu'il peut jouer. Ça bascule pas forcément à chaque fois en sa faveur au niveau du résultat final, mais il est vraiment tout proche. Et sur cette édition, il arrive enfin à battre dans un match monumental Novak Djokovic. En quart d'ailleurs, je crois. Derrière, il a une demi-finale aussi relativement compliquée contre Berdych, qui gagne en 4-7, mais il y a 3 tie-breaks. Et puis, il se retrouve face à Nadal, mais on sent un Stan complètement lancé. Et il y a cette finale où une dimension supplémentaire pour moi vient se rajouter, qui est, et tu l'as dit Adrien, Nadal blessé, mais Nadal qui n'abandonne pas, Nadal qui reste sur le terrain jusqu'au bout, pour que au moins Stan, pour son premier titre du Grand Chelem, puisse savourer ce moment-là et surtout qu'il aille se le gagner, se le chercher par lui-même. Donc voilà pour tout ça, toute la dimension, qu'elle soit tennistique et extra-tennis, voilà pourquoi j'ai choisi cette finale.
Au-delà de la finale en même, c'est le parcours aussi de Wawrinka que tu mets en avant dans cette Open d'Australie 2014. Laurent, c'est un match qui t'a marqué également. Wawrinka, c'est vrai qu'il... On ne l'attendait pas forcément au début du tournoi.
Alors, on l'attendait parmi les outsiders, parce que l'année d'avant, il avait vraiment commencé à émerger. Le match, évidemment, qui est un des tournants de sa carrière, c'est ce 8e à Melbourne, un an avant, en 2013, contre Djokovic, qui perd 12-10 au 5e, qui est un match extraordinaire. Et je ne sais pas si j'ai vu quelqu'un en dehors du Big Three jouer aussi bien que Wawrinka l'avait fait ce jour-là. Pendant, il mène, je crois, 6-1, 5-2 contre Djoko. Et vraiment, pendant un 7,5, c'est extraordinaire. Donc, ce match-là lui avait fait franchir un cap. Après, il perd en demi-finale à Flushing contre Djokovic en 5-7. Et ce qui est fou, c'est que c'était sa première demi-finale de Grand Chelem, alors qu'il a quand même plus de 28 ans. Donc, quand arrive l'Open d'Australie 2014, il est parmi les outsiders, mais en tout cas parmi les joueurs qui comptent. Mais évidemment, comme Nicolas dit, c'était très, très difficile d'imaginer une victoire autre que de Federer, de Nadal, de Djoko, voire de Murray, qui avait quand même gagné Wimbledon l'année d'avant et l'US Open en 2012. Donc, il était vraiment devenu, en tout cas sur les 12-15 derniers mois, quasiment l'égal de ces trois-là. Wawrinka, oui, il y a ce quart de finale évidemment qui gagne contre Djokovic, mais contre Nadal, moi je vais être très franc, j'y croyais pas une seconde. Alors évidemment, le head-to-head, le passé entre deux joueurs, ça fait pas tout, mais je crois que c'était 12 victoires en 12 matchs pour Nadal, et Wawrinka n'avait jamais pris ne serait-ce qu'un set à Nadal, que ce soit en indoor, sur terre, sur dur, où vous voulez, il lui a même pas pris un set. Donc de là, imaginez qu'il puisse gagner. Moi, j'y croyais pas autant. Je pensais vraiment qu'il pouvait battre Djokovic en quart quelques jours avant, parce qu'il l'avait vraiment accroché, et plus que ça, même lors de leurs deux derniers matchs en Grand Chelem. Mais Nadal, non, je pensais qu'il n'avait pas les clés d'ailleurs. Alors évidemment, c'était sur terre à Roland, mais à Roland en 2013, alors qu'il a vraiment commencé à franchir un cap. Il joue Nadal en quart. Alors il le joue 2 jours après un match monumental contre Richard Gasquet, où il avait laissé beaucoup de gomme, mais il prend 3 petits sets. Voilà, je crois que c'était 2, 2 et 3, quelque chose comme ça. Donc pour moi, Nadal était archi, archi, archi favori. Et c'est vrai que c'est pas un tournant dans la décennie, parce que ça n'a pas empêché les trois monstres de continuer à dominer, et même Murray avant qu'il se blesse. Mais c'est quand même vraiment le ça
Merci,
entérine.
Laurent. Merci. En fait, j'ai gagné.
Non, mais ça a apporté un vent de fraîcheur de voir
J'essaye
Wawrinka.
de trouver des arguments pour ton choix, quand même. Non, oui, un vent de fraîcheur, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je trouve vraiment beau dans le parcours de Wawrinka, dans sa carrière, je veux dire, c'est que il est la preuve qu'il faut se garder des jugements définitifs. Et j'en lis tellement, j'en entends tellement à propos de joueurs de la next-gen. Des joueurs qui ont 21 ans, 22 ans, qu'il faudrait jeter à la poubelle. Chacun avance à son rythme. Et Wawrinka, je pense qu'il avait quasiment tout dans son jeu, presque depuis le début, en tout cas depuis très longtemps. Il avait besoin de se convaincre de qui il était, de qui il pouvait être. Je pense que son coach, Magnus Norman, l'a vraiment beaucoup aidé là-dessus. Et puis après, c'est une succession de matchs, d'étapes qui l'ont convaincu que bah, il avait rien à envier à ces joueurs-là. Après, sur la finale en elle-même, ce que je trouve fort paradoxalement dans la victoire de Wawrinka, c'est que si je me rappelle bien, il mène 2-7-0. Je crois que c'est au deuxième set que Nadal se blesse. Donc Wawrinka,
Ah non,
vraiment,
non, c'est avant, c'est avant.
c'est sûr? Moi,
Ah ouais,
il me
je
semble qu'il
suis.
gagne le premier à la régulière, moi.
Ouais, mais je crois quand même qu'il est très vite, il a mal quand même. Ouais.
Et après, dans le troisième, il est vraiment perturbé. C'est-à-dire qu'il perd le troisième et on sent qu'il a un moment de flottement, parce que ben, il a senti que, un, Nadal était blessé, deux, il mène 2-7-0, donc le titre est là. Et là, on voit quand même que c'est très compliqué pour lui. Et il va réussir à passer au-dessus de ça, et ça, c'est quand même fort. Après, on peut dire, oui, Nadal était blessé. L'argument serait recevable si Wawrinka n'avait pas fait ce qu'il a fait après. Voilà, je pense que le fait qu'il ait gagné derrière à Roland-Garros, qu'il ait gagné à l'US Open, pour moi, efface un peu tous ces oui
D'autant
mais
plus qu'il a,
ouais mais.
d'autant plus que sa victoire avait été justement, on va pas dire critiquée, mais Nadal blessé en finale, il avait eu un forfait aussi de pause Pisil, je crois, assez tôt dans le tournoi, au deuxième ou troisième tour, donc un match qu'il n'a pas eu à jouer, à disputer. Mais comme tu l'as dit, quand on voit après ce qu'il a pu faire, gagner Roland, gagner l'US, gagner Monte-Carlo, et pas face à n'importe qui, donc.
Pour préciser, Nadal s'est blessé au début du deuxième set et il est sorti se faire soigner à 2-1.
Et je pense qu'il
Ah.
est sorti se faire soigner à 2-1, mais je ne sais pas s'il n'était pas déjà un peu touché avant, il avait mal au dos. On sentait qu'il était, je pense qu'il était très contracté au début de ce match, et c'est peut-être ce fait très nerveux qui a provoqué cette blessure. Mais moi, j'ai un souvenir très précis de cette finale, parce que bon, je ne l'ai pas commenté, mais j'étais là-bas. Donc, je sais que je l'ai vu avec des collègues journalistes. dans un stand de vente de boissons au houblon, boissons au houblon, très très prisé en Australie, très prisé par Nicolas notamment, que tu vas en Australie à l'heure de l'apéritif. Et donc on avait pu voir cette finale sur écran géant au milieu du public avec quelques bières, donc effectivement. Et il y avait un côté choquant, il y avait un côté incroyable, dire mais comment ça se fait, Vainqueur en train de lui marcher dessus, etc. Au début, après on voit que Nadal est blessé. Et on se dit, bon, bah voilà, c'est inéluctable, il va peut-être abandonner. Bon, et effectivement, il y avait un sentiment très étrange de se dire, parce que je vais citer un grand absent de ce débat, M. Frédéric Verdier, mon collègue depuis quelques années, qui dit toujours, ne donnez pas les titres du Grand Chelem avant qu'ils soient joués. Parce qu'effectivement, on a tendance à dire avant Roland, bon, allez, un de plus pour Nadal. Là, c'était un de plus pour Nadal avant cette finale. C'est sûr, il va gagner. Wawrinka, il ne peut pas gagner le Grand Chelem. Allez hop, il va gagner. Puis après, il va gagner Roland. Puis il pourra peut-être faire le Grand Chelem. En tout cas, ça va lui en faire tant. Il va rattraper Federer et tout. Fred m'avait dit, attends, la finale, laissons-la jouer. Elle n'est pas encore gagnée. Le titre, il n'est pas encore acquis. Et il avait raison. Il y a eu effectivement un impondérable, cette blessure. Mais, comme vient de le rappeler Laurent, Nadal, une fois blessé, il va au vestiaire, je crois qu'il a eu des injections, il a eu une espèce d'infiltration pendant le match, donc la douleur était de moins en moins intense au fil du match. Il gagne le troisième, et derrière, il y a l'aspect nervosité. Wawrinka n'a pas gagné le Grand Chelem à ce moment-là encore. Et on a vu combien de fois on a vu des matchs où le joueur non blessé n'arrive plus à jouer face au joueur blessé, parce qu'il le regarde, parce qu'il se dit bah, il arrive quand même à jouer, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé, et c'était un peu tangent dans le quatrième, où il a eu quand même le cran, le Suisse, parce que c'est quand même du cran, même face à Nadal blessé, d'aller finir ce match, d'aller le gagner. Donc, c'est une finale marquante, et donc un bon point pour notre ami Nicolas Escudé, qui a quand même choisi une finale qui est marquante et qui est un élément fondateur, évidemment, pour Wawrinka, parce que s'il ne gagne pas celle-là, rien ne dit qu'il va faire le match époustouflant qu'il fait l'année suivante à Roland-Garros contre Novak Djokovic, et encore l'année suivante à l'US Open, toujours face à Djokovic.
On va reculer de 2 ans en arrière pour parler du choix de Laurent, la finale 2012 entre Djokovic et Nadal. Pour ne rien trahir, c'est le match qui avait été choisi en numéro 1 du top 50 que la rubrique tennis avait écrite sur Eurosport.fr. Donc, je trouve ça logique, Laurent, finalement, que tu aies choisi ce match.
Oui, alors même si j'étais pas tout seul à faire ce classement, j'étais avec mes acolytes Rémi Bourrière et Maxime Battistella, donc c'était un choix collégial, on va dire. Moi, c'est pas forcément mon match de tennis préféré, et même peut-être pas ma finale préférée en termes de jeu, mais je trouve quand même que c'est un match complètement hors norme, dont on reparlera ça fait bientôt 10 ans maintenant, on en reparlera dans 20, dans 30, dans 40 ans, ça j'en suis convaincu. D'abord, c'était une finale historique. Non, Bertrand, t'es pas d'accord, tu penses qu'elle sera oubliée cette finale?
Elle sera pas oubliée, mais par rapport à celle dont je vais parler, à mon avis, on s'en souviendra moins.
Chacun son tour.
Mauvaise foi de Bertrand Millard, c'est insupportable.
Non, mais c'est pour toute bonne foi.
Ouais, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on t'aime. Déjà, c'était une finale qui avait un caractère historique avant qu'elle commence. C'était la première fois dans l'histoire que 3 finales consécutives de Grand Chelem opposaient les 2 mêmes joueurs. Djokovic avait gagné à Wimbledon et à l'US Open contre Nadal. Il avait gagné relativement facilement. Il est vraiment au sommet de sa domination. Il a fait une saison 2011 complètement incroyable. Et puis, c'est la 100e finale de l'Open d'Australie aussi. Donc, ouais, moi, j'aime bien ces petits repères historiques là, qui donnent un petit caractère déjà spécial avant que ça commence. Et puis après, ce match, je ne vais pas le raconter, tout le monde le connaît. 5h53, ça se termine à 1h37 du matin. Il y a cette image qui, pour moi, reste quand même une image assez invraisemblable des deux joueurs qui ont du mal à tenir debout lors de la remise des trophées. Il faut leur amener des chaises.
Parce que Monsieur Kia parle quand même pendant 10 minutes. Hein,
oui, c'est vrai que c'était un peu la faute de goût, ça.
Il connaît bien le tennis, il a très bien compris l'affaire. Et, voilà, il fait part
et au bout du remerciement du 49e sponsor, c'est vrai que Nadal et Djokovic ont fait sentir que bon, ils aimeraient bien qu'on ne les oublie pas et qu'ils étaient là quand même eux aussi. C'est un match, je comprends qu'on puisse être peut-être pas réticent, mais pas sous le charme d'un combat comme ça, parce que c'est du tennis hyper physique, c'est un combat, c'est d'abord un combat, et ça peut ne pas plaire à tout le monde, ça je le comprends très bien, mais je pense quand même qu'on ne peut pas ne pas reconnaître le caractère complètement unique, je pense, de ce match-là. Et c'est le symbole pour moi du tennis dans lequel on est entré dans les années 2010, même s'il y a Roger Federer. Je pense que le tennis ira de plus en plus vers ça. Et c'est quand même une des rivalités les plus marquantes aussi de notre époque et même de l'histoire du tennis. Et c'est ce match qui, pour moi, reste le plus marquant entre les deux. Et ce qui est fou, c'est que Djokovic le gagne donc après quasiment 6 heures en 5-7. Et pour moi, il aurait pu le perdre puisqu'il est breaké dans le cinquième. Il est mené 4-2. Nadal sert 30-15. Là, il y a ce passing de revers qui, je pense, c'est un peu son Djokovic match à lui de Roland un an plus tard. Où il a ce passing de revers à jouer au niveau du carré de service. Il n'a plus qu'à le poser, longue ligne. Enfin, plus qu'à. Après 5h30 de jeu, évidemment, c'est facile à dire. Mais disons que je pense qu'il en a tiré des beaucoup, beaucoup, beaucoup plus durs dans sa carrière. Et puis la balle s'échappe, elle va dans le couloir. Il demande le hockey sans y croire une seconde. Et je pense que ce point-là là, a quand même hanté Nadal, en tout cas a hanté ses fans, parce que moi, beaucoup de fans de Nadal m'en parlent souvent. Donc, il aurait pu gagner ce match, Nadal. Mais je pense que Djokovic aurait dû le gagner beaucoup plus tôt. Il aurait pu gagner le premier set, il aurait dû gagner le quatrième. Donc, même après 5h53, je trouvais qu'il y avait une forme de logique. Après, il y a des images vraiment que j'ai jamais vues ailleurs entre ces deux-là. Et notamment, l'image la plus marquante du match pour moi, c'est quand Nadal arrache le tie-break du quatrième set pour égaliser à 2-7 partout, 4h35 ou 40 de jeu. Et là, Nadal, mais c'est fou, il tombe à genoux. Et si vous revoyez l'image, vous la montrez à quelqu'un hors contexte en disant, à ton avis, là, qu'est-ce qu'il vient de faire, Nadal ? Réponse A, il a gagné la finale. Réponse B, il est revenu à 2-7 partout. J'ai jamais vu un joueur revenir à 2-7 partout dans une finale de Grand Chelem et célébrer comme ça. Donc, ça montrait toute l'adrénaline complètement incroyable qu'il y avait et exceptionnelle. Et voilà, donc je ne conseille pas forcément à tout le monde de le revoir en intégralité, mais en termes d'intensité, même si leur finale à Flushing en quelques mois avant, en 2011, avait peut-être des points encore plus dingues, il y avait des passages fous. Mais là, sur l'ensemble de la finale, 5-7, 6 heures, c'est quelque chose que j'avais jamais vu avant, que j'ai jamais vu depuis, et je ne suis pas sûr de le revoir de sitôt.
Bravo, tu nous as scotché.
Non, mais surtout que, enfin, voilà, pour revenir sur cette finale, alors là encore, j'ai la chance cette fois-ci de l'avoir dans le stade. Alors, ce qui était marrant, c'est qu'on avait un billet, on avait réussi à avoir un billet, mais à trois, je crois que c'était avec mes anciens collègues Benoît Daniel et Bertrand Dumont. Donc, on s'est changé le billet, on voyait tantôt un set dans le stade, tantôt en cabine. Enfin, voilà. Donc, j'ai eu la chance en plus d'avoir peut-être un 3-5. En tout cas, j'ai vu le cinquième set, la fin du quatrième et le cinquième. À la fin, j'étais resté jusqu'au bout, les autres n'en voulaient plus. Bref, ils avaient du boulot. Donc, ce moment-là dont parle Laurent, oui, ça peut paraître incongru quand on se dit c'est la fin du quatrième, mais c'était un moment gigantesque. C'était gigantesque. Le tie-break était monstrueux. C'était la folie. Chaque point était une tuerie. C'était hyper dur d'aller gagner le moindre point. Et il faut dire aussi que ce jour-là, il fait à Melbourne la fameuse chaleur humide. Là. Il fait très chaud, très moite. Et le match, vous vous rendez compte d'un match qu'on en est à 4 heures de jeu, 4h30 de jeu, dans une chaleur moite, vraiment, mais assis dans les tribunes, on est trempé, sans bouger, et on souffre de la chaleur. Donc imaginez ces deux-là qui font ce match de dingue. Chaque point est extrêmement difficile à les gagner. Donc le moment de libération, Kevin, au moment où il va chercher le cinquième set, moi quand je le vois à genoux à la Borg 80 à Wimbledon, on n'est même pas surpris. On se dit, c'est normal. La réaction, elle est normale. C'est tellement tendu, il y a tellement de tension, c'est tellement serré qu'on comprend cette réaction. D'ailleurs, il prend un peu le dessus derrière, comme l'a dit Laurent, avant de se faire rejoindre. Mais c'était effectivement un match époustouflant. Là, je reviens dans la bonne foi. Évidemment, c'était un match époustouflant de par les conditions, de par la durée de ce match hallucinante et l'état dans lequel ils ont fini. Et alors, on a parlé de combat physique. Laurent a parlé de combat physique. Mais quel combat mental! Ces deux-là sont certainement les deux plus gros mentaux de l'histoire du tennis. Et là, c'est hallucinant, puisqu'on a un Nadal qui a cette balle pour faire double break. Pour faire le double break, pour faire 15-40, je ne sais plus, Laurent.
Non, non, je crois qu'il est au service, qu'il sert à 4-2. Oui. 4-2, 30-15 sur son service. Donc c'est pour avoir deux balles de 5-2. Donc, rien ne dit qu'il aurait gagné ni le jeu ni le match derrière, mais quand même, il se fait breaker, il perd 3 points de suite et il se fait breaker.
Ouais, c'est ça.
Et à ce moment-là, la température, elle était de combien de degrés exactement?
franchement, elle était, élevée. Il faisait vraiment chaud. Et c'est, on souffrait pour les joueurs, mais en même temps, elle était captivante cette finale. Franchement, quand tu étais dedans, tu n'avais plus envie de céder ta place. Et d'ailleurs, je me souviens que malgré l'heure tardive, le stade était encore complètement plein. Il n'y a quasiment personne qui est parti en disant voilà, demain c'est lundi, il faut aller au boulot. Il y avait un monde fou par rapport à l'heure très très tardive. Bon, c'est une finale, hein, mais quand même, le match était extrêmement long. Et donc, oui, non, c'était un match assez fou. Et donc, je disais, le plan mental, incroyable. Incroyable. La force de caractère des deux, de Nadal pour recoller à deux partout, on l'a dit, de Djokovic pour revenir en cinquième, pour gagner encore ce match. C'était de la folie. Et ce combat-là, il est mental entre les deux. Il est fabuleux. Et comme l'a dit Laurent, pour Nadal, c'était dur parce qu'il avait perdu à Wimbledon l'année d'avant. Il perd à l'US Open une finale ping-pong. Où là, c'était le niveau de jeu totalement hallucinant. Ça jouait. Je crois qu'on n'a jamais vu ça ou revu ça. Et là, il en perd une troisième de suite alors qu'il n'est pas loin. Et je comprends pourquoi les fans de Nadal aujourd'hui parlent encore de cette finale, parce que ça veut dire qu'il a gagné qu'une fois ce tournoi et que donc, comme les deux autres, il n'arrive toujours pas à aller gagner au moins deux fois les deux.
D'ailleurs, je suis quand même en train de réaliser qu'on a choisi trois finales perdues par Rafael Nadal.
Ah oui, bah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai.
C'est vrai.
On l'a pas fait exprès, promis, pour les fans de Rafa, on l'a pas fait exprès.
C'est vrai.
Mais on a gagné qu'une en Australie en même temps. Hein.
Ouais.
Ces combats comme ça qui durent des heures et des heures en termes de physique, toi tu en as disputé des matchs en 5-7, c'est hallucinant de réussir à produire ce genre de rencontres.
Oui, mais au-delà de tout ce qu'a pu décrire, expliquer Laurent, je rejoins totalement Bertrand sur le. Ça a été du début à la fin un combat mental. Les deux joueurs avaient les curseurs de leur jeu, de leur physique. Tous les curseurs étaient poussés à leur maximum, et c'était de ce qui, comme Laurent l'a dit, n'a pas forcément donné, tennistiquement parlant, un spectacle éblouissant pendant 6 heures, mais ça a été un combat de « je ne peux pas lâcher, je ne peux pas descendre d'un degré, mon degré d'intensité, mon degré d'implication dans cette partie, sinon c'est terminé, je me fais marcher dessus ». Et ça, pour ça, ces deux joueurs-là sont, ouais, je pense, sont très très loin devant les autres. Ouais.
Adrien, tu m'as posé la question pour les 5-7. C'est à moi que tu m'as posé ça. J'ai un souvenir d'un match terrible en 5-7 au tennis club de Louvciennes, hein, contre mon pote de terminal, que j'avais gagné 9-7 au 5e.
Ah ouais, il n'y avait pas de tie-break. J'allais te demander s'il y avait tie-break au 5e.
Bien sûr que non, 9-7 au 5e. Et pas de public, hein, moins de chaleur que la Melbourne.
En mode Covid.
Ouais. C'est ta finale à toi.
Oh là là, ouais, c'était énorme.
Et juste un dernier truc dis-donc. Avant qu'on passe à une finale moins intéressante, mais dont on va quand même parler. Mais ce match-là, ils vont se retrouver pour une quatrième finale de suite. Ça va être leur grand chelem à eux, à Roland-Garros après, où Nadal va gagner cette fois. Sur 2 jours et pour battre le record de Borg. Donc encore un match qui était chargé d'histoire. Mais pour moi, c'est aussi le symbole que... Bah, ça peut tourner très vite dans le tennis. Et quand Djokovic y gagne à Melbourne, il n'y a vraiment que lui et puis Nadal derrière en dauphin. Et on pense que c'est parti pour durer très, très, très longtemps. Et en fait, cette année 2012, ça va être tout le contraire, puisque Djokovic ne gagnera plus de Grand Chelem derrière. Ça va être Nadal à Roland. Ça va être Federer qui va revenir de très loin, sinon de nulle part, à Wimbledon. Et Murray qui va gagner pour la première fois en Grand Chelem à l'US Open. Donc voilà, ces gens-là, il ne faut jamais ni les enterrer, ni croire que les dominations sont éternelles. Et comme le grand Frédéric Verdier disait qu'un grand chelem n'est jamais gagné, ni même une finale, ben la suite n'est jamais écrite non plus. Et de la même manière que quand Djokovic était au fond du trou en 2017-2018, que Federer et Nadal avaient repris la main, ben c'était difficile d'imaginer que fin 2018, Djokovic serait à nouveau numéro 1 mondial et serait reparti. Donc pas de jugement définitif sur les jeunes et encore moins sur ces champions-là. Quoi.
Exactement, ça nous permet d'évoquer un autre champion dont on ne pensait pas qu'il allait gagner en 2017 peut-être, c'est Roger Federer dans cette finale que tu as choisie, Bertrand. Le Fédal, comme tu m'as dit tout de suite quand je t'ai demandé quelle finale tu as envie de défendre, tu m'as dit le Fédal de 2017. Pour toi, ça paraissait évident.
Oui, bien sûr. Ouais. C'est après, en plus, c'est une belle transition parce que le nombre de gens qui ont enterré Federer en disant il gagnera plus jamais un grand chelem. Ben alors, c'est arrivé dès 2013, hein, à partir du moment où il a eu cette saison difficile en 2013, blessé au dos, avec cette défaite contre Stakowski à Wimbledon, qui était incroyable.
Et contre Robredo,
à l'US Open, à Robredo, contre qui il n'avait jamais perdu.
Ah ouais. Et là, il est vraiment, comme il l'avait dit en conférence de... Parce qu'autant Stakowski fait un match fabuleux, vraiment, c'était du bon tennis, Federer fait pas un mauvais match. Mais contre Robredo, je me rappelle, il arrive en conf de presse et il dit « c'était nul ».
Oui, je me souviens de ce match, j'ai commenté, je crois que c'était vraiment nul, c'est vrai. Et il est, battu par un joueur qui le surdominait tout le temps. Donc là, 2013, ça y est, tout le monde l'enterre une première fois, l'enterrement de première classe. Bon, bah, Federer, c'est terminé, vous avez vu, les deux autres sont trop forts, il ne gagnera plus de grand chelem. Bon, donc il se passe quelques années. En 2016, il est quand même en demi-finale à Wimbledon contre Raonic, et là, c'est souvent là qu'il se blesse au genou. Il est blessé déjà lors de cette demi-finale qu'il aurait très certainement gagné sinon pour affronter Murray en finale. Et derrière, exit Federer pour la première fois de sa carrière, longue blessure, parce qu'il n'avait pas connu la blessure longue. Il avait connu des soucis au dos, un peu récurrents tout au long de sa carrière, mais pas la blessure longue. Et là, c'est la grosse blessure, opération du genou. 6 mois, il est de 81, donc en 2016, il a quand même 35 ans. Et on se dit déjà, ça va être difficile de revenir et de rejouer. Bon, 2017 arrive, Open d'Australie, et bonne nouvelle, Federer est engagé, il rejoue. Ça fait 6 mois qu'il n'a pas joué en compétition, même un peu plus, parce que ça faisait depuis Wimbledon, donc. Et il va s'aligner. Et moi, j'ai la chance de commenter son premier match. Je crois me souvenir, c'est contre Noah Rubin, un Américain, jeune Américain. Et c'est poussif, il n'a pas joué depuis longtemps, premier match de compétition, il a du mal, je crois qu'il y a un tie-break, voire deux. Bon, heureusement pour lui, le tirage est plutôt bon. Rubin, c'est un joueur qui n'a pas gagné beaucoup, c'est un bon junior, mais ça n'a pas été un très bon senior, il n'a pas gagné beaucoup de matchs en grand chelem. Federer s'en sort, bon an, mal an, gagnant, bon, un match 3-7, mais accroché. Et on se dit, bon, bah, c'est pas extraordinaire, allez, ça va faire au mieux, ça fera une deuxième semaine, et vraiment au mieux, quoi. Deuxième tour, niveau légèrement en hausse, mais pas extraordinaire non plus. Bon, et troisième tour. Et le déclic arrive au troisième tour contre Berdych, une de ses victimes préférées, même si ce dernier l'avait battu au jeu de 2004. Et là, c'est la démonstration.
Et à l'US Open.
C'est la démonstration. À l'US Open, évidemment, en quart de finale, il y a eu un terme, effectivement, au nombre de victoires, aux successions de victoires en night session de Federer. Donc là, démonstration. Il marche sur l'eau, il ridiculise Berdych, et d'un coup, vraiment sur un match, on retrouve le grand Federer et vraiment au niveau de jeu très élevé. Et là,
surtout côté revers.
Et c'est le début.
D'ailleurs, sur ce match-là.
Exact. Et c'est le début d'un conte de fées total, puisque on se dit mais comment c'est possible, il peut pas aller au bout. Déjà à ce moment-là, on ne se dit pas qu'il peut aller au bout. On dit bon, il va peut-être aller en quart de finale, peut-être faire une demi, mais bon, ça sera trop fort en face, il ne pourra pas tenir physiquement, après il n'aura pas le rythme, après tout en absence et tout. Et de l'autre côté, il y a un Nadal qui fait son chemin, qui n'est pas non plus favori de ce tournoi. Djokovic, à ce moment-là, est dans sa fameuse phase où il est en régression, en retrait, et ça va durer pendant environ une saison et demie de saison. Et arrive donc finalement cet affrontement en finale. Il y a la demi contre Wawrinka, hein, qui est dur. Il se fait mal aussi. Federer se fait soigner, je crois, à la fin du quatrième. On a peur pour lui. Il finit par gagner encore face à son compatriote. Donc en 5-7, donc un match long. Et arrive cette finale contre Nadal. Et là, on va avoir. Alors, c'est pas tout le match non plus. Hein. Je vais faire un peu comme a dit Laurent pour sa finale à lui. Je ne vais pas vous demander de regarder forcément tout le match. Parce que les deux premiers sets, par exemple, sont partagés en termes de niveau. Le premier est dominé par le Suisse, le deuxième est dominé par Nadal. Mais évidemment, ce qui va faire le sel de cette finale, c'est le cinquième set, qui là, par contre, est d'un niveau stratosphérique, ontologique, c'est démentiel. Nadal break rapidement, en plus, au cinquième, il mène 3-1. On connaît l'histoire d'arrivée entre les deux, leur histoire dans les finales de Grand Chelem. Et Nadal a gagné en 2009, 8 ans plus tôt, face à Federer, une finale qu'il aurait dû, à mon avis, ne jamais gagner, mais qu'il a gagné avec la tronche en 5-7, alors qu'il avait eu lui aussi une demi-finale de 5h14 contre Verdasco et en plus un jour de récupération en moins. On se dit, 3-1, c'est fini pour Roger. Le rêve est passé, dommage, parce que c'était quand même une sacrée belle histoire, mais c'est terminé. Et là, non, et là, je ne sais pas ce qui se passe. Là, ça va au-delà du tennis. Je me souviens, j'en parlais avec Mats Wilander ce jour-là, qui était subjugué aussi. Il y a effectivement le revers, mais hallucinant. On l'a jamais vu aussi fort en revers qu'à ce moment-là, de retour de blessure, qui va lui permettre de revenir petit à petit. Il y a un ou deux points identifiables dans cette finale qui sont absolument dantesques. Il parvient à débreaker et la fin, je vous expliquer parce que moi je commentais pas cette finale. Alors j'étais dans le stade et je m'étais promené un peu partout. C'est vrai, non, bah il y a eu des années, j'ai commencé surtout la finale d'âme. Premier set, on me dit de faire un peu, d'intervenir en fin de set et donc d'aller un peu prendre la température un peu partout. Donc premier set, je suis dans le stade. Deuxième set, je suis dans la cabine de mon collègue suisse. Donc un peu la soupe à la grimace, parce que le deuxième set, il est perdu. Troisième, je dois être chez les Espagnols. Idem, donc je l'ai porté bonheur à tout le monde. Et quatrième, je suis dans notre cabine à nous. Enfin, je me promène un petit peu partout. Et puis, le cinquième set, je décide de descendre. Il y a un endroit à Melbourne, dans le stade, où il y a un écran géant. Il y a un petit endroit où on peut se poser sur des transats ou rester debout. Moi, je me mets un peu en retrait, debout, près d'un arbre. Il y a une tension énorme. Et je vis cette fin de match-là. Et c'est fabuleux. Il y a une ambiance de fou, évidemment. Et c'est irréel. Je suis dans un monde, j'ai l'impression de ne plus être dans le monde réel. Je dis, c'est pas possible. Ça ne peut pas jouer comme ça. Ça ne peut pas être avec tout ce qui vient de se passer. Et que ces deux-là jouent à ce niveau-là, que Federer parvienne à avoir ce niveau monstrueux et finisse par avoir le dernier mot en plus, connaissant les difficultés qu'il a eues tout au long de sa carrière face à Nadal en Grand Chelem, notamment dans les finales. C'était totalement hallucinant. Et c'était là vraiment un scénario de catch auquel on ne croit pas, ou de film. Oh, on dit non, c'est l'histoire, elle est belle. Le finish à l'américaine, là, où Federer finit par gagner après 6 mois sans avoir joué, en jouant à un niveau qu'il n'a peut-être jamais joué dans sa carrière. Ce n'est pas possible. Et pourtant, c'était vrai. C'était la réalité. Il fallait presque se pincer pour y croire. Mais c'était vrai et ça a été démentiel. Important aussi à ce moment-là pour lui, au niveau des. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas gagné le Grand Chelem, pour reprendre un peu de marge face à Nadal, parce qu'à l'époque, il reprenait, je crois, +3. +4. Donc, on pensait que c'était définitif, comme quoi, encore une fois, rien n'est jamais définitif. Mais voilà, pour toutes ces raisons, ce match est absolument incroyable. Déjà, il l'aurait été si Federer ne revenait pas d'une blessure de 6 mois. Mais là, en revenant de l'inconnu et en ayant commencé le tournoi avec le niveau qu'il avait et de finir avec ce niveau-là, c'est quelque chose qui, pour moi, est insurpassable. Donc, c'est pour moi, obligatoirement, la plus grande finale de l'Open d'Australie.
Il y a une image, d'ailleurs, qui est sympa. Il faut le dire, la balle de match, on la connaît sur le Hawkeye. On n'a pas tout de suite le résultat final. Et au moment où on voit que la balle est in, on a Federer qui saute presque comme un junior, quoi, comme un gamin.
Ouais. La délivrance. C'est presque un peu décevant. C'est toujours dommage. Oui. Hein, ces décisions finales sur vidéo, ça tue. Ouais. C'est un peu comme le VAR en foot. Hein, ça tue un peu la joie spontanée du joueur qui va pouvoir tomber par terre et tout. Voilà, c'était un petit peu dommage. Je pense que la joie aurait été autre si
cette finale. Entièrement d'accord.
Voilà. Pour moi, c'est un petit regret sur cette finale, effectivement, cette fin avec un Hawkeye. Mais parce que la joie aurait été, je pense, encore plus spontanée. Mmh. Et là, il y avait plus une crainte, un soulagement, en fait, de voir la décision en sa faveur que de voir réellement la joie, l'explosion qu'il peut avoir à la fin d'une finale de Grand Chelem. Mais c'était quelque chose d'assez dingue. Et puis après, je me souviens être à la conférence de presse avec des questions grotesques de la part de mon frère, malheureusement, comme souvent, et qui est hallucinant d'ailleurs dans ce contexte. Il était resté stoïque. De le voir avec la coupe aussi, ça faisait bizarre de le revoir avec une coupe. De voir sa femme dans les couloirs de Melbourne Park au téléphone, seule, vraiment bout d'un couloir, et en train de. Et je capte une bribe de conversation, elle est en train de dire. Il la voulait tellement, il revient tellement loin, il pensait. Enfin, voilà, elle disait, c'est tellement important pour lui, il pense de pouvoir gagner à nouveau, etc. Et je sentais que c'était hyper sincère. Elle était au téléphone avec, je ne sais pas avec qui, mais. Et on sentait aussi chez elle cette joie vraiment immense de pouvoir regoûter à la victoire en Grand Chelem. Puis c'est les deux plus grands joueurs de l'histoire. Donc.
On va faire un débat là-dessus d'ailleurs.
Ah, on refait un débat donc là.
Non mais c'est vrai, Bertrand, tu nous donnes une envie, c'est de.
20-20, non, c'est ça, non.
C'est d'aller revoir sur Eurosport des bribes de matchs.
Ah bah celui-là, oui. Celui-là, c'est ça fait partie des matchs où souvent, ça arrive rarement de se dire on va aller revoir des matchs ou quoi. Mais là, celui-là, on peut regarder le 5e set, faut le regarder
en boucle.
En boucle.
Nico. Toi aussi, tu as un super souvenir de ce match. Raconte-nous un petit peu.
Il était au micro, Nico.
C'est ça.
Ah bah oui, super souvenir. Bertrand l'a suffisamment expliqué.
Comment tu l'as vécu, toi
moi, je trouve que effectivement, l'entrée en matière dans le tournoi de Roger a été sur la pointe des pieds, hein, et pas forcément si simple que ça, malgré les scores. Mais que très très vite, alors là, après le match contre Berdych, j'en parle même pas, mais tout le monde espérait rêver quand même à un moment donné à une finale Federer-Nadal sur cette Australian. Et de fil en aiguille, oui, elle a eu lieu et on a atteint, oui, pour moi, l'excellence tennistique avec tout ce que ça peut comprendre sur le cinquième set et par moment avant dans le match où là ça dépasse l'entendement et pas seulement qu'un seul joueur, les deux.
Oui, bien sûr.
Les deux. Et c'est fou parce que quelque part, de par le scénario, sans forcément être un pro Federer par rapport à Nadal, mais de par le scénario, de comment ça se passe, comment le match évolue, le renversement de situation, Roger qui revient après ce break de retard, le niveau de jeu atteint et les coups de tennis réalisés, on espérait quand même que Roger finalement aille la chercher. Mais honnêtement, moi en cabine au micro, j'avais pas envie que ça se termine. J'avais envie que ça continue. Et c'est marrant parce que Bertrand, ça va te parler. Il y a un autre match qui m'a fait cette impression, c'est à l'US.
Oui, ouais, ouais.
Le team Nadal. Nadal.
Voilà.
Alors, dans une autre façon tennistiquement parlant de jouer, mais avec la même impression, le même aspect surnaturel de ce qui est en train de se passer sur le terrain.
Exact. Très, 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 très bon comparatif, même si ce n'était pas une finale. C'est vrai qu'on ressentait un peu les mêmes choses en termes de niveau de jeu. Malheureusement, ça s'est terminé au tie-break du cinquième, ce qui est désastreux. Laurent lui dira qu'il ne pouvait pas y avoir un meilleur final.
Ben, clairement. Clairement. Non, mais moi, évidemment, c'est un match, on parlait tout à l'heure, dans 30, 40 ans, on reparlerait de la finale de 2012. Évidemment qu'on reparlera de celle de 2017. Moi, si je ne l'ai pas choisi, d'abord, c'est parce que Bertrand a choisi.
Ça, c'est honnête.
C'est fou quand même. Ouais. Et tous les trois, premier choix.
Bah oui, non, mais j'aurais vraiment pu parler de
heureusement
de
que
ce match, c'est évident. Mais disons qu'en termes d'intensité d'un point A à un point B, de la ligne de départ à la ligne d'arrivée, je pense que ce n'est ni la plus grande finale de l'histoire, ni le plus grand match entre Federer et Nadal. En revanche, je suis d'accord sur le cinquième set. Moi, je me souviens, un mois après, j'étais chez mes parents pour raconter ma vie et mon père, qui est un adorateur de Roger Federer, m'a dit « Ah tiens, on va se remettre la finale qu'il avait enregistrée ». Donc, on a revu le cinquième set. Et c'est vrai que ce cinquième set, il est vraiment tennistiquement extraordinaire et émotionnellement et en termes de scénario parce que, comme vous l'avez dit, le fait qu'il ait été breaké comme ça d'entrée, c'était cousu de fil blanc, c'était terminé. Donc moi, ce n'est pas forcément ma finale préférée. En revanche, je pense que c'est mon tournoi du Grand Chelem préféré de tous les temps. En tant que suiveur, journaliste ou gamin ou fan de tennis depuis 40 ans, j'adore ce tournoi parce que il n'y a pas que la finale, il y a tout quoi. C'est très progressif et Federer revient de nulle part, mais Nadal revient de très loin aussi. Nadal, il n'a pas joué une finale de Grand Chelem depuis 2014, depuis Roland 2014. Ça fait quasiment 3 ans qu'on ne l'a pas vu en finale. Il a traversé 2 années très difficiles avec des blessures, avec des défaites très douloureuses. La dernière en date en Grand Chelem, c'était contre Lucas Pouille à l'US Open, 7-6 au 5e déjà, un tie-break. Et puis... Donc, ni l'un ni l'autre ne sont attendus. Federer, encore moins, mais Nadal non plus. Le favori, c'est Andy Murray. Il est numéro 1 mondial. Il vient de dominer les 6 derniers mois. Il a gagné Wimbledon.
Et comment son chemin de croix, en fait.
Et voilà, c'est ça. Tout va tourner. Et voilà ce tournoi.
Il se carbonise sur la fin de saison précédente.
Exactement. Ouais. Mais bon, entre guillemets, ça valait le coup, je pense. Il y a la défaite de Djokovic au 2e tour contre Istomin, qui était un événement assez exceptionnel déjà aussi. Et puis, effectivement, petit à petit, avec la sortie de Djoko, avec l'élimination de Murray, je crois que c'était contre Micha Zverev,
oui,
en 8e, je crois.
Ouais. Qui se fait exploser après par Federer, d'ailleurs, en quart.
Voilà, c'est ça. Il doit y avoir Federer-Murray en quart. Donc, ça monte petit à petit. Moi, je me souviens avoir fait un article qui me rend un peu ridicule avec le recul, mais avant qu'il joue Berdych au 3e tour, je dis, si Federer perd aujourd'hui, il sortira du top 30. Et ce qui était invraisemblable, puisque même avec sa blessure, il était encore 17e mondial, je crois, après 6 mois d'absence. Donc voilà, on est passé de potentiellement, il pouvait sortir du top 30, à il va gagner un grand chelem. Et ça va monter petit à petit, parce qu'on se dit, bon, ok, il bat Berdych, Mais derrière, il a, je crois, Nishikori en 5-7.
Ouais, c'est
en 8e. On se dit, ouais, mais s'il joue Murray. Et puis non, il ne joue pas Murray. Et puis derrière, il y a quand même ces deux demi-finales et la finale, trois matchs en 5-7. La demi Federer-Wawrinka qui est tendue de très façon tendue. Incroyable. Mmh. Et le début du cinquième, notamment, je me rappelle, où Wawrinka a des balles de break, où Federer rame sur son service. Et puis, il va tenir ces deux jeux-là. Et derrière, il va breaker, il va gagner. Et puis, il y a l'autre demi qui est fantastique entre Nadal et Grigor Dimitrov, qui a un match.
Oh oui, alors, fabuleux.
Là, pour le coup, fabuleux. Vous pouvez le revoir du premier au dernier point, il n'y a pas de problème. Vraiment un match extraordinaire. Donc, c'est tout le tournoi qui est fabuleux. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est que petit à petit, on a commencé à se dire, et si on avait une finale Federer-Nadal, ce qui était vraiment, on n'y croyait plus les mois et les deux années précédentes. C'était fini. Donc, pour moi, c'est le retour de ce que j'avais appelé à l'époque, on avait retrouvé le paradis perdu. Et il n'y a rien de mieux que de revivre des moments qu'on pensait ne plus pouvoir revivre à l'avenir. Donc, ça appartenait au passé, les Federer-Nadal.
Mais d'autant plus le spectacle qu'ils nous ont donné.
Ce qui est marrant, c'est que
au-delà du match, il y avait l'attente, l'excitation de retrouver. Moi, j'ai jamais autant savouré les deux jours avant une finale de Grand Chelem parce que c'était tellement bon de se dire qu'on allait revoir ces deux-là en finale de Grand Chelem. Et alors, en plus, effectivement, ça n'a pas fait trois petits sets ni d'un côté ni de l'autre. Donc, ça a été la cerise sur le gâteau, ce match et ce cinquième set. Mais pour moi, je garde vraiment le souvenir très fort de toute la quinzaine, petit à petit, avec une excitation qui monte. Et c'est ça que je garde en mémoire au-delà de la finale elle-même.
Mais c'est un moment unique parce que, comme on l'a dit, le niveau de jeu de Federer monte au fur et à mesure. Mais attention, autant contre Berdych, il marche sur l'eau. C'est un match exceptionnel, l'autre il est ridicule, on dirait qu'il est même pas pour, qu'il est 500e mondial. Bon. Après, Nishikori, c'est un bon match aussi, plus difficile. Le quart contre Zverev, il est favori, donc bon, forcément, il est largement au-dessus. Mais comme l'a dit Laurent, la demi contre Wawrinka, elle est difficile. Et là, il marche pas sur l'eau. Là, il y a de nouveau des crispations, il y a de nouveau des fautes. Il n'y a pas qu'un niveau de jeu stratosphérique tout le temps. Au contraire, il y a vraiment des hauts et des bas. Et donc, on se dit, bon, ça va être difficile. Et en finale, pareil, il y a aussi des hauts et des bas. Mais il y a cet instant de magie de la deuxième partie du cinquième où là, et c'était la seule fois de sa carrière, même si il y a une époque où il dominait largement, c'était peut-être la seule fois de sa carrière où on se dit, mais là, Federer, il est injouable, il est intouchable. Il ne va rien lui arriver, il ne peut plus rien lui arriver après ce débreak. Parce que là, c'était dingue. Le niveau était dingue. Ce qu'il tentait a été réalisé. Comme l'a dit Nico, c'est des coups mais qui ne sont pas dans les manuels. Là, c'est des trucs... Il n'y a que des génies qui peuvent réaliser ça des deux côtés, hein, mais c'était des points de mutants. Et il a atteint un niveau complètement hallucinant au meilleur moment, c'est-à-dire à la fin d'un cinquième set en finale de Grand Chelem, pour le gagner. Et derrière, même s'il va en regagner d'autres, puisqu'il va regagner quand même Wimbledon la même année contre Cilic et l'année suivante, la finale contre Cilic, c'est plus le même Federer. Ça ne sera pas ce Federer, complètement aérien, avec un revers de dingue d'un seul coup, qui est le meilleur revers de toute sa vie, où on a l'impression qu'il ne peut rien lui arriver. Il y aura des failles mentales contre Cilic l'année suivante, ça va être très difficile d'aller gagner, et où il était très tendu dans cette finale-là, dans son dernier Grand Chelem remporté. À Wimbledon, Cilic est blessé, ça fait trois petits sets, mais là non plus, ce n'était pas forcément le même niveau de jeu. Donc, elle marque, je trouve que ce moment-là, il est marqué dans l'histoire. Le Federer d'avant n'a jamais été aussi fort, et celui d'après n'a plus été aussi fort non plus, même s'il a regagné de grands chelems. C'est ça qui en fait un moment, je trouve, complètement unique et qui fait de cette finale, pour moi, la plus grande en Australie.
Mais ces moments-là, comme tu le dis, Bertrand, ne peuvent arriver que dans ces moments-là, justement. À savoir sur des finishes, sur des matchs en 5-7, sur des finales, sur où à un moment donné, on quitte la troisième dimension.
Oui, mais là, il joue contre son bourreau quand même, Nadal, qui l'a battu tellement de souvent à Roland-Garros, même à Wimbledon, il a fini par le battre. C'était peut-être là, Laurent, dura sans doute la meilleure finale entre les deux en termes de niveau de jeu. Il l'a rebattu en finale de l'Open d'Australie en 2009, alors que Federer avait toutes les armes pour gagner ce match, notamment sur le plan physique, normalement. Et là, il est breaké au cinquième, on dit c'est pas possible. Et en fait, ce truc-là, ça lui arrivait qu'une fois, finalement, contre Nadal. Le moment où on s'est dit, nous, non, mais là, il a pris le dessus. Il a pris l'ascendant.
C'est vrai qu'à Roland, on l'a pas trop senti, le truc-là.
Non, c'est jamais allé jusqu'au cinquième à Roland. C'est allé jusqu'au quatrième maximum. Donc bon, là, non, c'est ce truc-là était surréaliste. J'ai trouvé que cette fin de cinquième était surréaliste. Et de par le fait qu'il passe devant. Et d'ailleurs, depuis, dans leur rivalité, il y a un truc qui a changé quand même. Il l'a, bah,
il l'a battu, je crois. Je crois que quand il se retrouve en demi à Roland-Garros en 2019, oui, 2019, Federer reste sur 6 victoires de suite, je crois, contre Nadal.
Oui, et si je ne dis pas de bêtises, il le rebat. Donc, peu après cette finale…
Indian Wells.
Indian Wells, c'est une… Il y en a un des deux, je crois que c'est une boucherie. Hein. C'était vraiment… Ouais, voilà. Et,
oui, parce qu'il avait trouvé aussi, c'est ça qui est fou, c'est qu'il a trouvé à 35 ans des solutions contre Nadal qu'il n'avait jamais eu avant. Alors, c'est dû à plein de choses, son revers, sa raquette, etc. Mais…
Alors, selon Mats Wilander, qui connaît quand même bien le bonhomme dont je vais parler, il faut donner beaucoup de crédit à Stefan Edberg sur cette évolution côté revers. C'est lui qui a entamé ce travail avec Federer, qui l'a convaincu d'entamer ce travail, forcément évident avec un joueur qui a déjà gagné 17 Grand Chelem. Et ce travail a payé. Il a dû lui dire, je pense qu'il lui a dit, si tu veux regagner un Grand Chelem, si tu veux battre Nadal en finale, il faut absolument
faire des retours sabres.
Voilà. Retours sabres, c'était encore. C'était avant. C'était avant. Je ne sais pas si c'est Edberg, mais en tout cas, le revers, selon Mats Wilander, hein, que je cite, c'était vraiment. C'est Stefan Edberg qui est l'instigateur de cette évolution et de cette amélioration de ce côté-là pour le Suisse.
C'est vrai que tout est dingue, en fait, parce qu'il n'a pas battu Nadal en Grand Chelem depuis 2007, depuis la finale de Wimbledon 2007. Donc, je ne sais pas combien de matchs ils ont joué depuis, mais entre la finale de Wim, la finale de l'Australie, ouais. La finale de Roland en 2011, des demi, il y en avait eu quelques-uns quand même. Et donc, si on avait dit à Federer, tu vas gagner l'Open d'Australie, tu vas le gagner en battant Nadal en finale, tu vas le gagner en le battant en finale en 5-7, et tu vas le gagner en le battant en finale en 5-7 en ayant été breaké dans le cinquième. Enfin voilà, tout est invraisemblable.
Ah ouais, chouette.
Ouais. Et d'ailleurs, ouais, ou mytho.
Ouais, bah dans le scénario de catch, le scénario, ouais, revisez-le un petit peu, il est trop. Mais Laurent, je crois que tu m'arrêtes si je me trompe, mais ils se sont pas rejoués entre la fameuse finale 2008 et la demi-2019 à Wimbledon. Federer et Nadal.
Non. Et ben, voilà, enfin, oui, tu as voilà. Raison. Non, donc, ils se sont pas...
2006, victoire en 3-7. 2007, victoire en 5-7 à l'arrache, il a tremblé. 2008,
victoire en 4-7. En 4-7,
en 4-7 pardon, c'est ouais. Serré avec des tailles. En 2006, 4-7, oui. 5-7 en 2007. 2008, Nadal gagne cette finale d'anthologie. 9-7. Et en 2019, le Federer, d'après Open Australia 2017, il gagne quand même avec autorité hein, la demi face à Nadal. Il y a vraiment un truc qui s'est passé
à part sur terre où il avait vraiment il n'aura jamais voilà mais sinon oui c'est vrai que moi j'aimerais plus que revoir cette finale dans 10 ans, ce que j'adorais, c'est un documentaire sur cette quinzaine, quoi.
Ah, c'est très énorme.
La genèse du truc, comment Federer et Nadal, encore une fois, reviennent. Djoko qui tombe, Murray qui tombe, ces matchs en 5-7. Ouais, c'est vraiment un roman pour moi, cette quinzaine, et j'adore ce tournoi.
Un excellent scénariste. Et aussi, la demi, comme tu l'as dit, l'autre demi, elle est fantastique entre Dimitrov et Nadal. Vraiment un niveau de jeu hallucinant. Ouais. Gagné finalement par Nadal. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Ça aurait été sympa d'avoir un Federer Dimitrov, mais tant mieux.
Mais oui, je pense qu'on a de plus. Ouais, je pense que sans vouloir de mal à ce bon Grigor, c'est vrai qu'on lui aurait quand même voulu. On lui en aurait voulu un petit peu quand même. Mais l'histoire était belle, ouais, jusqu'au bout.
Ouais.
On n'a qu'une envie, c'est d'aller revoir ce cinquième set à vous écouter, messieurs. Je vous le conseille, vous trouverez ça sur eurosport.fr. Merci de votre participation à ce podcast. Je vous rappelle que vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Merci, messieurs, pour votre participation. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. Salut.
Salut tout le monde.
Salut.
Ciao.